Bonjour. Ce matin, j'aimerais commencer par dire merci pour l'encouragement et le soutien de l'Église pour la formation. Il y a 2 semaines, c'était la première session de FBSE et le cours portait sur le serment sur la montagne. J'ai voulu creuser un peu la dernière partie de ces 3 chapitres dans Matthieu. J'ai construit ce que je vais dire principalement sur la présentation de Claude Bécher sur le serment sur la montagne qu'on peut trouver sur Internet. Et je vous recommande d'écouter tous les épisodes si vous le pouvez. Ils donnent tous beaucoup à réfléchir. Dans l'évangile de Matthieu, le serment sur la montagne est le nom donné au chapitre 5, 6 et 7. Jésus y développe son enseignement. C'est un discours central dans cet enseignement. C'est là que se trouvent par exemple les béatitudes, la prière qui commence par Notre Père, les fleurs et les oiseaux, et beaucoup d'autres textes qui nous sont familiers. Y revenir pour les étudier est très instructif. Matthieu place ce texte au début de son récit du ministère de Jésus sur terre. Cela nous indique son importance. C'est un texte qui est une clé pour comprendre la suite du récit. Qu'apprenons-nous dans ces 3 chapitres ? Jésus enseigne ce qu'est le royaume de Dieu, plus précisément l'éthique de ce royaume. Comment vivre en étant ses disciples, ceux qui le suivent dans la vie quotidienne. Le programme est radical et étonnant. Il renverse les valeurs conventionnelles de notre monde, en particulier concernant le succès et le moyen de l'atteindre. Dans ces chapitres, Jésus nous enseigne à nous comporter avec Dieu et avec nos prochains, dans des cas très concrets. Je vais lire le passage qu'on va étudier aujourd'hui. C'est dans Matthieu 7, les versets 13 à 29. Matthieu 7, versets 13 à 29. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux, ceux qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces ? Ainsi, un bon arbre donne de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais ceux qui écoutent mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi. À la lecture de ce texte dense, il est intéressant de garder en mémoire les 2 derniers versets. Quand Jésus a fini de dire toutes ces paroles, les foules sont très étonnées par sa façon de l'enseigner. En effet, il ne fait pas comme les maîtres de la loi, mais il enseigne avec l'autorité que Dieu lui donne. Les versets 28 et 29. Pour moi, cette conclusion des 3 chapitres du Sermon sur la montagne nous invite à nous mettre à notre place en mettant Jésus à sa place qui est au centre. C'est lui qui a l'autorité qui vient de Dieu, c'est lui qui enseigne. Mettre Jésus à sa place dans ma vie, c'est aussi le premier pas pour me mettre à ma place dans la communauté des croyants, pour reconnaître que je fais partie de quelque chose qui me dépasse, quelque chose qui est plus grand que moi. Dans les versets 13 et 14, Jésus donne un premier avertissement. Attention au conformisme. Relisons-les. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Je relève deux aspects de ce passage. Le premier, la vie et la mort sont présentés comme deux chemins distincts. Et il en va de notre choix, de nos choix permanents entre ces deux options. On peut faire un parallèle avec le verset dans Deutéronome 30, verset 19. « J'ai mis devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. » Au premier abord, évidemment, nous souhaitons tous la vie et personne ne veut la malédiction. Deuxièmement, on pourrait rapidement interpréter ce passage comme l'indice qu'il s'agit d'une secte, d'un élitisme hyper prononcé. Cela pourrait soit nous encourager à être parmi les meilleurs, soit nous décourager. De toute façon, très peu y arrivent, pourquoi est-ce que je me donnerais du mal ? Ces deux réactions ne correspondent pas à ce que, d'après ce que je comprends, Jésus nous demande. Devant cette problématique, il m'est utile de me rappeler le contexte de ces versets. Il s'agit d'un résumé de l'enseignement de Jésus. Le sermon sur la montagne nous appelle à un changement radical de notre conception du succès, du bonheur, un changement dans nos relations aussi. Donc il me paraît plutôt normal que certaines phrases soient paradoxales à première vue. Mes pistes de réflexion tiennent à un éclairage apporté par d'autres passages des Écritures. D'abord, l'évangile de Jean, où Jésus se présente comme la porte, dans Jean 10, verset 9, et comme le chemin, dans Jean 14, verset 6. Ensuite, les notes de la Bible d'étude indiquent dans ce passage une référence à Michée 2, verset 13, au sujet de la porte. Dans Michée, le verset dit « Celui qui fait la brèche marchera devant eux, ils se presseront par la brèche, ils franchiront la porte et sortiront par elle. Leur roi marchera devant eux, l'Éternel sera à leur tête. » Ce verset, selon les traductions, est soit une parole de Dieu, soit une parole de faux prophète. Dans les deux cas, Jésus utilise la référence à ce passage pour se présenter comme la porte, dans Jean 10, et pour orienter notre marche sur le chemin, dans le texte de Matthieu 7. Dans le contexte de Michée, moi je fais le lien avec le verset 8 du chapitre 6 que nous chantons parfois. On t'a fait connaître ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Pour moi, ce verset résonne avec l'enseignement de Jésus sur la montagne d'une manière particulière. L'expression utilisée en là-haut pour « marcher humblement avec » contient le mot qui veut dire « harmonie, unité, des relations apaisées ». C'est un mot utilisé couramment pour décrire l'idéal de fonctionnement d'une communauté. Je trouve intéressant d'approfondir notre compréhension de ce verset en appuyant sur l'unité, la paix de notre marche avec Dieu. Entrer par la porte et marcher sur le chemin, c'est s'engager constamment dans un non-conformisme à la société, en se conformant à l'enseignement de Jésus, toujours avec son aide. La partie suivante dans le texte, versets 15 à 20, nous parle de faux prophètes. C'est un danger qui est appelé, dans l'émission de Claude Bécher, le danger séduction. Le passage nous parle de personnes qui ont l'apparence de prophètes, mais dont le but est de dévorer les brebis, car ce sont des loups. Il s'agit de personnes apparemment inspirées, mais dont le mode de vie ne correspond pas au mode de vie d'un disciple de Jésus. Contre les faux prophètes, la Bible met en garde aussi bien dans l'Ancien que le Nouveau Testament. Ainsi, comme il est dit plus tôt dans le texte que toute prière n'est pas forcément bonne, ici c'est toute forme d'inspiration déclarée venue du Seigneur qui n'est pas nécessairement bonne à prendre. Pour la prière, Jésus donne un rectificatif en enseignant une prière. Ici, il nous donne un critère de discernement. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il est question ici de faire attention, d'exercer notre discernement. Ce n'est pas un rejet total des miracles, de l'inspiration, des signes de restauration, car ceci est possible dans le Seigneur, mais le premier pas dans le discernement est de s'assurer que nous suivons Jésus et non pas quelqu'un d'autre. Dans les premiers temps de l'Église, des prophètes itinérants passaient dans les assemblées. Plusieurs textes dans les Épîtres appellent les premiers chrétiens à discerner ces faux prophètes. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les fruits, ce sont l'amour du prochain et la vérité. On peut les voir à travers l'intégrité, l'humilité et la joie de la transformation, de la restauration. L'opposé est de commettre l'iniquité, ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est donc un critère objectif que nous donne Jésus en nous mettant en garde contre la séduction des faux prophètes. C'est aussi une invitation pour nous tous, mais particulièrement lorsque l'on est chargé d'enseigner la communauté, à rester dans l'obéissance du Seigneur et à entrer dans sa logique de restauration qui sont visibles dans notre vie. Il n'est pas du tout question ici de sauver la face, de garder une apparence de vie sans défaut, et c'est ce que nous rappellent les versets suivants. Au verset 21 à 23, Jésus parle d'un groupe de disciples. Ce n'est plus un élément externe, comme un prophète itinérant, qui est le danger. Le danger est à l'intérieur de la communauté, et c'est celui de la poudre aux yeux. Jésus est, encore une fois, très réaliste. Nos penchants humains sont de suivre quelqu'un qui parle au nom du Seigneur, qui chasse des mauvais esprits au nom du Seigneur et qui fait de nombreux miracles au nom du Seigneur. Et pourtant, Jésus nous met en garde. Qu'est-ce qui doit nous impressionner? D'abord, le fait de prendre soin des plus fragiles, des qualités d'attention aux plus petits. Ceci passe avant les signes extraordinaires. Une chose qui frappe dans ce récit, c'est que les personnes qui ont fait des miracles l'ont fait au nom de Jésus. Cependant, Jésus s'étonne. Il ne sait pas d'où vient qu'ils ont pu faire ces miracles. Cela nous aide à comprendre que les miracles ne sont pas un critère suffisant pour discerner que quelqu'un suit le Christ. Nous ne sommes pas à l'abri d'être impressionnés par de grandes œuvres, d'aimer les sensations fortes. En tant qu'être humain, on suit facilement quelqu'un qui accomplit de grandes choses. Ces versets nous encouragent, encore une fois, à exercer notre discernement pour reconnaître ce qui est bon, dans un sens comme dans l'autre, des signes qui viennent de Dieu et ceux qui ne viennent pas de lui. Ce que la communauté peut attendre d'un responsable, c'est d'abord de se conformer au roi et à son royaume. Je parle ici de responsabilité dans l'Église. Tout le monde est concerné dans le cadre de son engagement dans la communauté locale. Ces versets nous invitent à prier pour nous-mêmes. Seigneur, aide-moi à être impressionné par des actes modestes qui sont loin du feu des projecteurs qui correspondent à ta volonté. Il nous invite aussi à prier pour ceux qui parlent le dimanche matin, qui préparent des études bibliques, afin qu'ils cheminent dans cette voie, sans chercher le succès par ailleurs. C'est une invitation à l'humilité. J'ai lu récemment que des chercheurs en psychologie s'intéressent de plus en plus aux qualités positives comme la bienveillance, mais aussi l'humilité. Curieux sujet de recherche, qu'une qualité qui disparaît plus ou moins dès qu'on la nomme. Dans cet article, elle est définie comme la capacité à reconnaître avec précision ses limites et ses capacités et une position interpersonnelle qui est axée sur l'autre plutôt que sur soi-même. Ça donne à réfléchir, je trouve, qu'une qualité qui est tellement en désaccord avec le monde et en accord avec le royaume de Dieu soit prise au sérieux dans le monde. Il faut qu'ils grandissent et que je diminue, a dit Jean-Baptiste à propos de Jésus, c'est dans Jean 3, verset 30. C'est cela la spiritualité du royaume. il faut qu'il grandisse et que je diminue. » Le passage suivant, les versets 24 à 27, nous raconte encore un peu plus ce que Jésus attend de nous dans nos vies. C'est une histoire connue. Le fou et le sage qui construisent chacun une maison. Il y a plusieurs points de réflexion dans cette petite histoire. Si les avertissements précédents de Jésus concernaient en priorité les bergers des communautés, ici c'est l'ensemble de ses disciples qui sont invités à prêter attention au sens des paroles de Jésus et à choisir ce qu'ils en font jour après jour. Le point culminant du récit arrive quand une maison résiste à l'épreuve et que l'autre s'écroule. Nous allons parcourir ce récit en quatre points. Le premier point, bâtir une maison. Claude Bécher suggère que Jésus a en tête, quand il raconte cette parabole, le temple de Jérusalem. À ce moment de l'histoire, il s'agit du deuxième temple. Le premier temple a été bâti par Salomon, il a été détruit par les Babyloniens. Le livre d'Esdras raconte sa reconstruction, c'est le second temple. Sur ce second temple, c'est Hérode qui effectue de nombreuses rénovations et qui l'agrandit. Et les travaux se sont terminés en l'an 63, mais ils ont commencé au temps de Jésus. Et les Romains le détruisent 7 ans plus tard, en l'an 70. Donc quand Jésus enseigne les foules, le temple est en construction, en travaux. Le temple est construit sur le mont Moria. C'est là où Abraham s'apprêtait à sacrifier Isaac quand Dieu l'a arrêté. C'est un lieu saint, particulier, de communion avec Dieu et avec le peuple. Cette maison, construite sur un rocher de pierre auquel il manquait le rocher de la justice, est plus tard complètement démolie. Construire une maison, ça représente à la fois les projets de vie d'une nation, d'un groupe, mais aussi de chacun individuellement. Deuxième point, le sage et le fou. Le sage et le fou bâtissent tous les deux une maison et tous les deux vivent des épreuves. Dans les deux cas, il s'agit de personnes qui entendent les paroles de Jésus. Avant la fin de l'épreuve, il est impossible de les distinguer l'un de l'autre. C'est-à-dire que le fou et le sage, c'est nous, qui lisons la Bible et qui entendons la parole de Dieu en communauté. La différence, c'est que le sage met en pratique ce qu'il entend, le fou, non. Il ne laisse pas sa vie être façonnée par Jésus quand les choses vont bien pour lui. Le sage et le fou construisent leur maison, leur vie. Ce n'est qu'ensuite que les épreuves surviennent dans le récit. C'est le troisième point, les épreuves. Le fou et le sage font face à une épreuve exactement la même pour les deux personnages. La pluie, les fleuves en crue et le vent. On peut penser aux épreuves des premiers disciples, quand Jésus est mort et qu'ils étaient dans la confusion la plus totale, puis à la persécution à Jérusalem, à la persécution à travers les siècles, quand l'enseignement de Jésus est pris au sérieux. On peut penser aussi à toutes les épreuves de la vie. Ce que nous comprenons dans ce texte, c'est que quand tout va bien, il est nécessaire de s'exercer, de prendre des habitudes qui peuvent nous porter quand les choses vont mal, c'est-à-dire s'exercer à prendre l'enseignement de Jésus au sérieux dans les petits actes, dans le quotidien. Il y a un passage dans Ézéchiel 13, les versets 10 à 14, qui raconte une parole de Dieu contre les faux prophètes. Elle contient aussi l'image d'une pluie torrentielle. L'image, c'est l'image d'un mur blanchi de crépi. La pluie vient, elle enlève le crépi. Une tempête fait tomber le mur, mettant à nu ses fondations. Le crépi n'a pas sauvé le mur. La question qui se pose suite à ces lectures, dans Matthieu et dans Ézéchiel, est « Où est mon fondement ?» Ce qui nous amène au quatrième point, les fondations. Dans l'histoire, le choix des fondations est représenté par le sable et le rocher. Est-ce que ce sont des symboles et si oui, de quoi? La même histoire est racontée dans Luc 6, versets 46 à 49, mais le sage est décrit en creusant des fondations, pas simplement les posant sur le rocher. Le rocher, ce n'est pas que Jésus, mais il symbolise quelque chose de spécial par rapport à Jésus, la prise au sérieux et la mise en pratique de ses enseignements avec son aide. Le sable symbolise une conception de la vie chrétienne où l'on entend des justes paroles, on les médite peut-être, mais sans pratiquer la justice. Nous avons besoin d'entraînement, de nous exercer à prendre au sérieux et à aimer l'enseignement de Jésus, à aimer Jésus à tel point qu'on mette en pratique ses commandements qui sont clairs. Le verset qui est sur toutes les couvertures de cristal, c'est 1 Corinthiens 3, verset 11. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, qui est Jésus-Christ. En lisant la fin du chapitre 7 de Matthieu, je me demande, est-ce que je peux affirmer honnêtement que Jésus est le fondement de chacun de mes actes et de toutes mes pensées ? La réponse est non, car nous sommes des humains faillibles et le monde dans lequel nous vivons est entièrement dans l'attente de sa restauration par Dieu. Ce qui est essentiel, c'est ce que je fais à partir de là, comme à chaque fois que je réfléchis à ce passage ou à d'autres passages qui m'encouragent dans la même direction. Laisser Dieu m'affermir dans mon fondement, m'affermir en lui, c'est vivre chaque jour dans le but d'être centré sur lui, avec ce désir. Quand je m'éloigne, il reste près de moi, et je recommence à marcher à sa suite, après m'être détourné de ce qui m'a détourné de son chemin. C'est vraiment quelque chose que j'apprends jour après jour, sa grâce pour nous accompagner dans cette marche. J'espère que cela vous encourage aussi ce matin. Pour conclure cette réflexion, nous pouvons effectivement nous souvenir des avertissements de Jésus, de son réalisme. Nous rappeler entre autres que les forces du conformisme sont à l'œuvre. C'est vrai, le Seigneur lui-même nous l'enseigne. Qu'il faut regarder en face les dangers de la séduction des faux prophètes, de la poudre aux yeux à l'intérieur de l'Église, du danger d'être un mauvais auditeur des enseignements de Jésus. Mais ce qui est essentiel, ce que je retiens à la lecture de ce texte, c'est que nous sommes en route vers une autre culture, la culture du royaume de Dieu. Pour terminer ce matin, je prie que Dieu vous bénisse là où vous êtes, qu'il bénisse votre chemin de vie. Amen.